Bonjour à tous. Suite aux événements de cette semaine, plusieurs d'entre vous étant impactés directement ou indirectement, nous avons pris la décision d'annuler notre culte en présentiel. Je vous propose donc d'écouter l'enregistrement du message qui aurait dû être apporté ce matin. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 49. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Seigneur, merci encore de bénir ta parole, qu'elle soit pour nous encore un baume en ce jour. Merci de ton message, mais qu'à toi revienne toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus passe par deux émotions, en très peu de temps. D'abord, la tristesse jusqu'aux larmes, et puis la colère, jusqu'à passer à l'acte de violence. Or, nous sommes bien loin du simple pèlerin que nous décrit parfois certains psaumes. Les évangiles nous rapportent trois fois où Jésus pleure. Une première fois devant le tombeau de Lazare, qu'il ressuscitera quelques instants plus tard, montrant ainsi son amitié terrestre et sa puissance céleste. Une troisième fois, c'est dans le jardin de Gethsémané, montrant son humanité et sa soumission à la volonté de son Père, dans la mission qu'il lui a confiée. Et la deuxième fois, désolé si c'est dans le désordre, mais c'est comme ça, c'est notre récit, montrant ce Jésus, moment où les larmes de Jésus expriment toute sa tristesse, en constatant l'état de péché de l'humanité, mais surtout ceux de la ville dite sainte, là où doit résider le nom de Dieu, son Père. Il pleure sur le présent, mais dans un premier temps, il ne parle pas du passé, il est révolu. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, malgré ce qui nous entoure. Aujourd'hui, connais-tu les choses qui appartiennent à ta paix, Église de Jésus-Christ, ou toi qui m'écoutes? Jérusalem a été visitée par Dieu. Il en a fait sa ville. Sa maison y est présente. Cette maison et cette ville qui devaient servir de témoignage pour les nations, tous les deux seront détruites parce qu'elles n'ont pas connu le temps où elles ont été visitées. J'ai mis la ville et le temple ensemble, parce que l'issue de la prophétie nous montrera qu'en l'an 70, rien ne restera debout. Le seul témoignage de pierre qui reste actuellement est le mur des lamentations. J'ai été voir la définition de lamentation, plainte forte et prolongée, parfois de caractère religieux et rituel, par laquelle on déplore un malheur public ou personnel. D'où mur des lamentations, c'est un fragment de l'enceinte d'Hérode, à Jérusalem, devant lequel les Juifs venaient chaque vendredi se recueillir et pleurer sur la ruine de leur ville, et où sont célébrés les offices quotidiens depuis 1967. Et Jérémie en a fait un livre, livre des lamentations. Les lamentations, c'est quand il est trop tard. Quoi que nous ayons vécu, nous ne pouvons pas revenir en arrière. mais nous pouvons encore aujourd'hui connaître ces choses qui appartiennent à notre paix. Comment sommes-nous ce matin? Dans la joie comme le pèlerin du psaume qui monte à Jérusalem, ou dans le manque de paix, parce que notre propre tristesse nous a envahis? Jésus ne pleure pas sur lui, mais sur l'état spirituel des habitants de Jérusalem. Il est évident que ce n'est pas sur les pierres du temple qui intéressent Jésus, mais bien les pierres vivantes qui devraient la composer. C'est la vie de son peuple qui l'inquiète. Il n'est pas venu en maçon pour reconstruire des murs, mais en sauveur et seigneur pour bâtir son église. Et s'il revenait maintenant, quelle réaction aurait-il? Oh, il s'est déjà posé la question quand il était sur la terre. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quelques pas de plus, et c'est la colère qui fait place à la tristesse. En effet, Jésus entre dans le temple et est scandalisé par des vendeurs. Pour avoir davantage de précision, je vous propose de lire le même récit rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 2, versets 13-17. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs d'argent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ce n'est pas une simple petite gêne qui envahit Jésus, mais une véritable poussée d'adrénaline, au point d'en arriver à la violence. Il ne se contente pas de demander aux vendeurs de quitter le lieu. Il fabrique une arme avec des cordes et les chasse. La maison du Père est profanée en caverne de voleurs, en maison de trafic, alors qu'elle est destinée à la prière. Non seulement le lieu est bafoué, mais les animaux pour les sacrifices ne sont même pas ceux des troupeaux des propriétaires. Les demandes de pardon et autres offrandes ne sont que des espèces d'indulgence achetées à des marchands sans scrupules. Tout est permis dans la maison de Dieu. Où est la gloire de Dieu? Que reste-t-il de son honneur? Où est le respect dont il a le droit? Les disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Un texte que nous retrouvons au verset 10 du psaume 69. Aujourd'hui, je n'ai jamais cru à de coïncidences gratuites. Je m'explique. Je viens à peine de reprendre l'écriture de cette prédication après une journée d'arrêt où je n'ai regardé que les infos suite aux inondations de la région liégeoise. Et je relis le psaume 69, verset 2, le début. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Ce psaume n'est qu'un cri de détresse. L'auteur est assailli de partout et s'en remet à Dieu. Il sait que s'il est persécuté, c'est justement parce que ce zèle de la maison du Père le dévore. Et malgré tout, il prie non seulement pour lui, mais aussi pour les autres, pour ceux qui cherchent le Seigneur. Nous pouvons comprendre que les disciples font leur rapprochement. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus, venu sur la terre, est pris à partie par ses opposants qui veulent le tuer. Il le sait, mais malgré tout, il veut montrer sa fidélité à l'honneur de la maison de Dieu, qui doit être une maison de prière. Remettre les choses à leur place n'est pas toujours facile à dire et à mettre en œuvre, surtout qu'il y a des années que c'est comme cela. Les vendeurs étaient là probablement depuis longtemps et se sont incrustés petit à petit, en passant inaperçus au départ et ensuite en faisant simplement partie du décor. Qu'avons-nous laissé passer dans nos églises par petit peu, qui ont pris place définitivement. Que penser des idées bien incrustées depuis des décennies? Que dire des théologies avant-gardistes? Comment comprendre une telle liberté quant à la loi de Dieu? Je ne pense pas que ce que nous vivons maintenant soit une punition du Créateur, mais davantage des avertissements de plus en plus forts, ou plus nous nous approchons de la fin. Le but de ce message était de stimuler notre zèle, mais les événements des derniers jours m'ont conduit dans une direction d'encouragement, de soutien. Je vous propose donc un texte supplémentaire que je trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Notre Seigneur voit ce que nous faisons ou pensons. Il voit nos intentions et nos émotions. Oh, nous avons le droit d'être perturbés, d'être tristes, d'être en colère, d'être bloqués par les événements, mais nous n'avons pas le droit de douter de sa parole et de ses promesses. Nous avons l'espérance, avec un grand E. L'espérance d'être mieux, d'être béni sur cette terre et dans les cieux, d'être sauvé du péché qui nous ronge, d'être gardé, d'être protégé. Mais aussi l'espérance d'être accompagné si nous traversons de grandes eaux, au sens propre comme au figuré. Mais aussi l'espérance que rien ne peut nous arriver sans la volonté du Père. Et si même nous sommes attristés par quelque chose qui nous dépasse, Jésus, à Gethsémané, a pris nos larmes pour faire la volonté de son Père, pour nous donner la paix. Il savait qu'il n'avait d'autre issue que d'aller jusqu'au bout, pour nous, par amour. Oui, son zèle a été jusqu'à la mort. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Paul ne dit pas que nous devons mourir en martyrs, mais bien que ce qui nous prend aux tripes, ce zèle que donne l'Évangile, nous conduise à l'espérance, à la foi et à la persévérance. Nous pouvons être zélés un jour et ensuite déprimés, mais nous ne pouvons pas rester dans cet état. J'étais plein d'entrain quand j'ai débuté cette prédication et je me suis laissé submerger par la montée des eaux de la région. J'ai dû me remettre devant le Seigneur, relire plusieurs fois le psaume 69, reprendre courage pour vous apporter ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Nous ne devons pas nous relâcher, c'est la persévérance que Jésus nous enseigne. Marc 13:13, vous avez été haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'Épître aux Hébreux nous donne des exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont persévéré malgré qu'ils ont traversé des grandes eaux, et je le répète, au sens propre comme au figuré. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Nous avons certainement vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Ne nous relâchons pas, même si les événements extérieurs nous perturbent, même si l'état de l'Église nous inquiète. Jésus a pleuré, Jésus s'est fâché, mais je ne pense pas qu'il soit inquiet quant aux promesses de Dieu. Je termine par deux versets, par deux questions. Luc 12, 25-26. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut apporter une coudée de plus à la durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Que le Seigneur vous bénisse et vous réconforte. Amen. Prions. Seigneur, en ce jour, nous voulons t'apporter tous ces sinistrés, tous ceux qui sont dans la tristesse et la souffrance. Devant l'ampleur des dégâts, nous n'avons pas de mots. C'est pour cela que nous nous en remettons à toi, qui as les paroles de la vie éternelle. Renouvelle-nous, console les cœurs, et visite notre pays, au nom de Jésus. Amen.
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Saint-Lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de
Thank you. de l'action de ton esprit dans